RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous. Afrique Press, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Marie-Roger Biloa, Africa International et puis Pascal Hérault, L'Opinion. Autour de deux sujets dans cette édition. Au Gabon, Jean Ping choisit finalement la justice pour trancher la réélection contestée d'Ali Bongo, son rival à la présidentielle du 27 août dernier. Et puis en Guinée-Conakry, le président Alpha Condé et son principal opposant, Sélou d'Alain Diallo, s'engage dans un dialogue apaisé et ouvert. On se penche d'abord donc sur cette crise post-électorale gabonaise avec cette décision de Jean Ping finalement de faire appel à la Cour constitutionnelle pour trancher ce litige électoral avec Ali Bongo. On écoute les explications de son avocat, Maître Jean-Rémy Batsansa.
Nous avons déposé notre recours sur des éléments de fait. Très exactement, nous avons constaté qu'il y a des contradictions dans les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur, par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué et les PV en notre possession. Nous avons exactement 174 PV et lorsque nous compilons tous ces PV, nous nous rendons compte que dans tous les cas, même si on donnait les 30 000 voix restantes à M. Ali Bongo, il ne peut pas gagner cette élection. Ce n'est pas possible.
Voilà, Jean-Rémy Batsansa, l'avocat de Jean Ping, qui s'expliquait donc sur ce recours, Denise, recours à la Cour constitutionnelle, une semaine après l'éruption de violences, de manifestations, d'émeutes et de répression qui a entaché la réélection contestée d'Ali Bongo. L'heure est, semble-t-il, pour l'instant, à l'apaisement en tout cas. Le camp de Jean Ping qui avait qualifié la Cour constitutionnelle de tour de pise, parce que cette Cour, selon le camp de Jean Ping, penche surtout d'un côté, c'est-à-dire du côté de pouvoir. Malgré ça, donc, le recours a été déposé par le principal rival d'Ali Bongo et ce recours porte sur un recomptage. Jean Ping demande à la Cour constitutionnelle de recompter les résultats de la province du Haut-Ogooué, au centre donc de cette crise électorale.
C'est très bien que Jean Ping ait pu déposer ce recours parce qu'il prend de fait Ali Bongo au mot. Jusqu'ici, il s'était retranché derrière la loi en disant « la loi n'autorise pas le recomptage, si la Cour constitutionnelle est saisie, on verra ce qu'elle décidera ». Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du pouvoir et surtout de la présidente de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'elle choisira entre le cœur et la raison, puisqu'on sait qu'elle est quand même la belle-mère, entre guillemets, d'Ali Bongo, puisqu'elle a eu des enfants avec Omar Bongo père. Saura-t-elle dire le droit et demander, exiger qu'on procède à ces fameux recomptages qui sont exigés, comme vous le savez, par l'Union européenne, mais également par plusieurs capitales occidentales. Ce qu'on regrette, c'est que aucune capitale africaine aujourd'hui ne se soit prononcée sur cette crise gabonaise.
On va y revenir. Marie-Roger, alors il est capital de bien comprendre que dans la démarche de Jean Ping, il y a un souci principal, c'est que l'on puisse procéder au recomptage des résultats du Haut-Ogooué. Or jusqu'ici, le camp d'Ali Bongo a expliqué que ce n'était pas prévu par le code électoral, mais on sait que la Cour constitutionnelle a toute latitude de procéder à ce recomptage.
Tout à fait. Et ça m'a toujours fait sourire lorsqu'on disait « la loi n'autorise pas le recomptage ou se réfugier derrière la loi ». On a envie de leur demander est-ce que la loi aussi autorise la fraude? Donc, c'est des arguties qui ne tiennent pas debout. Mais effectivement, je suis absolument d'accord avec Denise parce que j'ai entendu des gens dans le camp depuis Jean Ping dire « Oh là là, c'est un piège d'aller à la Cour constitutionnelle ». Mais en même temps, c'est un piège de ne pas y aller. Parce que si on laisse passer la date, on a vu que l'opinion, surtout à l'étranger, est très légaliste. On répète des chiffres dont on sait qu'ils sont faux uniquement parce qu'ils ont été proclamés par la commission électorale ou je sais pas qui. Donc on fait comme si c'était parole d'évangile. On dit qu'il a gagné avec 49, l'autre machin. On sait que ça correspond à rien. Mais c'est ça qui est valable. Donc à partir du moment où Jean Ping ne va pas à la Cour constitutionnelle, on va dire ah ben non, la Cour constitutionnelle a décidé que. Et effectivement aujourd'hui, tout repose sur Marie-Madeleine Mouranso, triple M.
La présidente de la Haute Cour de justice.
Voilà. Cette dame a occupé ce poste depuis assez longtemps. Elle a entériné souvent les élections, mais ça, c'était une autre époque, c'était une autre période. Même à la mort de Omar Bongo, lorsque Ali Bongo a déjà commis cette imposture, il n'a pas gagné l'élection, il a été imposé. Bon,
l'élection de 2009.
De 2009, il y avait une espèce de ferveur parce que le président voulait mourir, il y avait, les gens étaient attristés, on voulait faire une forme de continuité, donc on a forcé, on est passé en force pour imposer Ali Bongo, et pas seulement eux, à Nicolas Sarkozy, très fort à l'époque. Donc Marie-Madeleine déjà était dans un dispositif qu'on peut comprendre avec le recul, mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, je crois qu'on arrive à la fin d'une imposture. On a vu que Ali Bongo, qui n'a jamais gagné les élections, ni les primaires déjà au sein de son propre parti, ni l'élection présidentielle, qui a été gagnée comme aussi par André Baobab, paix à son âme, encore moins maintenant, où au bout de 7 ans, les gens ont vu la catastrophe, le désastre dans lequel il a plongé le pays. Et très significatif, on a vu une désagrégation de tout ce qu'il a pu avoir comme alliance. Tous les gens de poids l'ont quitté. Et
oui.
Petit à petit, et la scène de ce député qui, pendant un meeting, démissionne en direct, en disant « on ne peut pas te soutenir », s'appelle Bertrand Zibiabegué, il est manquant, on ne sait pas où il est.
Le ministre de la Justice qui démissionne.
Et je voudrais encore juste une chose, parce que c'est très important. On n'a jamais autant tué au Gabon qu'aujourd'hui. Aucune crise n'a fait autant de morts. Et Ali Bongo est en train de tuer les gens dans les quartiers, dans les provinces, après avoir coupé Internet et se dit on va faire un massacre à huis clos. C'est un bain de sang. Ça, il faut le dire assez. Et c'est extrêmement grave. Rien que pour ça, déjà, il ne mérite même plus de dire les sujets.
Alors, peut-être qu'il y aura des enquêtes hein, pour justement que l'on en sache un peu plus hein, sur le bilan de cette répression. Parce qu'effectivement, d'un côté, le pouvoir parle de 3 morts. Des sources indépendantes, comme des journalistes de l'AFP, parlent de 7 morts. Évidemment, dans le camp de l'opposition, on parle de dizaines et de dizaines de tués.
Le passage devant la Cour constitutionnelle, le recours déposé par Jean Ping, n'est pas un choix du cœur. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'hésitations. Ce n'est qu'au dernier moment qu'ils ont décidé de saisir cette instance. Ils l'estiment trop partisane. Pour Jean Ping, il aurait aimé repasser devant la commission électorale, une commission recomposée avec des observateurs internationaux, type Union européenne ou Union africaine. Mais vous avez bien vu, Ali Bongo a été très ferme dans les plusieurs interviews qu'il a données sur les radios françaises. Non, c'est la loi gabonaise et on ne doit pas passer outre. Il y a des pressions diplomatiques très fortes, notamment des Français et des Américains qui sont exercées sur Ali Bongo pour que le processus soit le plus transparent et que ce recomptage puisse mettre les uns et les autres d'accord. Une dernière chose, si on en est arrivé là, c'est que le système électoral gabonais n'est pas transparent du tout. Il privilégie l'omerta. Il y avait 2600 bureaux de vote, 76 centres de compilation et 9 au niveau des provinces. À aucun moment, les résultats n'ont été publiés ni dans les bureaux de vote, ni dans les 76 centres, ni dans les provinces. Il y a eu une collecte à Conakry. On a annoncé
à Libreville.
On a annoncé un chiffre général. Il aurait fallu que l'on publie pour la plus grande transparence dans chaque bureau et dans chaque centre.
On parle beaucoup justement de cette absence de transparence hein, qui a entouré ce scrutin gabonais. Est-ce que vous êtes de cet avis, Denise ?
Pourtant, l'opposition avait quand même pris ses dispositions puisqu'elle faisait partie des bureaux de vote et de la commission électorale d'ailleurs.
Elle
a co-signé tous les PV. Le problème qui s'est posé, c'est que les PV du Haut-Ogooué, la province justement d'où la crise est partie, est arrivé en dernier ressort, alors que tout avait été validé et approuvé par les deux camps, aussi bien l'opposition que par le pouvoir.
Et les représentants de l'opposition sont accusés dans le Haut-Ogooué d'avoir été achetés par le pouvoir.
Juste un mot,
on va peut-être évoquer cette médiation que devait entreprendre au nom de l'Union africaine un certain nombre de chefs d'État à Libreville. Eh bien, leur visite dans la capitale gabonaise a été reportée sine die sur une décision en tout cas annoncée par le ministre gabonais des affaires étrangères que je vous propose d'écouter. Il s'agit de Emmanuel Ngonde.
Le président Déby souhaitait venir accompagné d'un certain nombre de chefs d'État au Gabon pour faire mener des actions de bons offices. Il se trouve que pour des raisons de calendrier, cette mission a été reportée sine die. Il n'y a pas, comme vous le craignez, péril en demeure. Il n'y a pas dans notre pays une situation sécuritaire explosive, une situation humanitaire explosive qui justifierait une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale.
Voilà, en gros, il n'y a pas péril en la demeure au Gabon, Marie-Roger. Mais donc, au fond, cette visite de l'Union africaine semble indésirable, en tout cas du côté du pouvoir.
Mais c'est choquant qu'ils disent qu'il n'y a pas péril en la demeure. Je vous dis, les Gabonais pleurent du mort. Selon Jean Ping, il y aurait entre 50 et 100 morts. Et on a entendu le témoignage d'un Français de Port-Gentil sur une radio ici, qui disait aussi des centaines de morts. Donc, ils ont plutôt envie qu'on ne voit pas tout ça. Et en plus, quand vous savez bien, la médiation de l'Union africaine, c'est pas des foudres de guerre. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Donc, même eux, ils n'en veulent pas. Ils disent, on ne veut pas d'étrangers, c'est à nous de régler le problème. Alors, Marie-Madeleine Moranso, c'est une Gabonaise. Si elle est du côté des citoyens gabonais, c'est-à-dire de son propre côté, parce qu'elle est une citoyenne gabonaise, qu'elle montre qu'ils sont en mesure d'avoir des institutions qui fonctionnent et qui sauvent le pays d'une crise gigantesque et qu'on arrête ça. Ensuite, juste un mot que je voulais dire sur le Haut-Togo. On fait comme si le Haut-Togo était un bastion imprenable d'Ali Bongo. Mais c'est pas vrai. Il a peut-être eu la majorité là-bas. On espère pour lui. Mais on a vu quand même, juste avant les élections, beaucoup de notables qui l'ont quitté. En particulier son propre cousin. Il y a beaucoup qui ont pris des distances avec lui. On a beaucoup de griefs qui sont maintenant publiés dans la presse là-bas. Le Haut-Togo n'est pas le bastion imprenable. C'est déjà, il faut arrêter de dire oui, normal, que c'est normal, et enfin, c'est 100%, c'est pas vrai.
C'est le fief, en tout cas, de la famille Bongo.
C'est une famille. Mais
Pascal.
On peut déplorer le silence des dirigeants africains. Aucun président n'a pris position. On a vu le communiqué du président tchadien appelant à l'apaisement, mais derrière la mission qui était attendue dès jeudi et reportée sine die, on ne sait pas quand elle va venir. Il y a une guerre des médiateurs aussi. Qui va être sur la liste? On a entendu au moins 6 ou 7 noms. Mahamadou Issoufou, Macky Sall, le président namibien, Ouru Kenyatta, le Kenyan,
Sassou Nguesso,
on n'arrive pas à se mettre d'accord. On a une présidente de la commission qui a les yeux tournés vers l'Afrique du Sud et la prochaine élection, l'Union africaine.
Et qui ne porte pas forcément Jean-Pic sur son cœur. Denise, tout de même, on a vu quand même que ces missions de bons offices de chefs d'État africains au nom de l'Union africaine, on a vu les limites de ce type de mission, notamment au Burundi il y a quelques mois, c'est-à-dire zéro résultat.
Bah, on les avait vus aussi dans les crises précédentes, la Centrafrique également. Non, mais c'est vrai. Cette mission, d'abord, faut se dire les choses en face. Clairement, Ali Bongo n'en veut pas.
Absolument.
Il n'en veut pas. Parce que dans cette mission, les présidents qui étaient pressentis devaient faire partie. Sassou Nguesso devait en faire partie. On sait très bien que depuis la mort d'Omar Bongo, mais surtout la mort d'Edith Bongo, qui était l'épouse d'Omar Bongo, et donc par ailleurs la fille de Sassou Nguesso, les relations entre Ali Bongo et Denis Sassou Nguesso sont plutôt très fraîches. Je ne pense pas que cette mission pourra aboutir. La chance pourrait venir peut-être des Nations Unies, voilà, par le biais du représentant en Afrique centrale, Abdoulaye Batili, qui a permis d'ailleurs la libération
du quartier général de
Jean Ping.
On reviendra sur ce débat, sur cette crise post-électorale gabonaise, donc sans doute dans les prochaines éditions d'Afrique Presse, avec un dénouement positif et pacifique surtout, nous le souhaitons. Alors, RFI TV 5 Monde, dans la deuxième partie de cette édition, la Guinée-Conakry, et ce dégel soudain des relations entre les deux grands chefs politiques, donc de Guinée-Conakry. La réaction du directeur de la publication Bingo, Oscar, donc, à ce dialogue renoué entre le président Alpha Condé et son principal opposant, c'est Loud Alain Diallo.
Cette visite ouvre effectivement la voie à un dialogue politique plus sérieux, vu que c'est le président Alpha Condé lui-même qui en constitue le nœud gordien. La classe politique guinéenne, à travers ses deux visites au palais Sertoria pour son aspect politique et celle du mercredi passé pour l'aspect social, sont un signal fort dans la relance du dialogue politique. Premier résultat immédiat de ces rencontres entre les deux hommes forts du pays, le professeur Alpha Condé et Seydou Dalein Diallo, est la date des élections locales fixées au 18 décembre 2016.
Denise, on se souvient que mi-août, des centaines de milliers de personnes avaient déferlé dans les rues de Conakry, une manifestation à l'appel de l'opposition, notamment de Sélou d'Alain Diallo, qui ne mâchait pas ses mots, qui parlait de déni de démocratie, de recul des droits de l'homme, de hausse du chômage. Et puis, 15 jours après, le 1er septembre, le voilà au palais présidentiel, 2 heures de discussion avec Alpha Condé, embrassade, une nouvelle ère qui s'ouvre donc en Guinée entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. C'est sans précédent depuis 6 ans, depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir.
C'est un événement, parce que jusqu'à présent, Sélou d'Alain Diallo était plutôt considéré comme le président de la République, puisque c'est lui qui faisait descendre dans la rue les manifestants. Et puis c'est vrai que le premier mandat d'Alpha Condé a été émaillé de plusieurs tensions que vous rappeliez. Mais je crois que c'est un principe de réalité qui a poussé Sélou d'Alain Diallo aujourd'hui à renouer avec le président de la République. Il est un peu isolé depuis le ralliement de Sidy Touré au camp présidentiel. Il est un peu isolé comme opposant politique. Et puis je crois qu'il pense aussi à l'après. Alpha Condé a entamé son deuxième et dernier mandat. Donc en 2020, il va falloir que Sélou Diallo, s'il veut exister sur la scène politique, qu'il bâtisse dès aujourd'hui sa stratégie. Mais cela dit, l'opposition, les critiques de l'opposition en matière d'organisation du calendrier électoral sont fondées. Depuis 2010, quand même, il n'y a pas eu d'élection locale. On est ravis de savoir qu'aujourd'hui, une date est fixée à la fin de l'année.
Que de temps perdu, mon cher Pascal, pour avant d'en arriver, si je puis dire, à ce compagnonnage pour travailler au nom de la Guinée, au service de la Guinée.
Ce compagnonnage peut surprendre à première vue, quand on connaît les rancœurs qu'il y a dans les deux camps. Sélou d'Alain Diallo estime qu'il a gagné lors de la première présidence, lors de la première élection. Il y a eu nombreux de ses partisans qui ont été enfermés, qui ont même été tués. Donc il y a beaucoup de rancœur. Mais il ne faut pas oublier non plus que sous Addis Camara, Sélou d'Alain Diallo et Alpha Condé étaient d'accord pour le mettre dehors
et
pour
qu'il y ait
hors d'état de nuire et pour qu'il y ait une transition politique. Et on arrive à cette échéance de 2020 et d'un côté comme de l'autre, on a intérêt à y aller de manière imposée. Pour Alpha Condé, qui fait face à une situation économique et sociale très difficile, 500 000 personnes dans la rue le 16 août à l'appel de l'opposition, la moitié des Guinéens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des problèmes d'électricité, des tensions ethno-régionales, il a plutôt intérêt à un apaisement pour finir son mandat.
Voilà,
sans oublier que les grands projets du pays qui devaient apporter des ressources comme celui de Simandou, Rio Tinto et à l'arrêt, Russal a aussi le
Russe. Se heurte à la crise des matières premières.
Voilà. Ouais. Et de l'autre côté, Sélou d'Alain Diallo a toujours ses revendications sur une recomposition de la commission électorale. Comme on l'a souligné depuis 2010, pas d'élection locale, c'est une délégation de pouvoir pour les maires. Donc, il a intérêt à travailler dès aujourd'hui pour avoir des gens qui puissent être maires et qui puissent être députés. Et la dernière chose, il estime que Sidy Touré l'a trahi en rejoignant au dernier moment Alpha Condé. Donc, c'est une manière de lui savonner la planche et de dire lui ça. Pourquoi Sidy l'a-t-il trahi? Parce que simplement, il y a cette question, s'il s'alliait à Sélou d'Alain Diallo, il pouvait penser que celui-ci, s'il était élu, allait faire 2 mandats. Il préférait aller voir Alpha, qui finit son deuxième mandat.
Et puis enfin, cette retrouvaille, ou en tout cas ce dialogue apaisé entre Alpha Condé et Sélou d'Alain Diallo, va aboutir aussi à un statut pour le chef de l'opposition. Statut d'ailleurs qui est inscrit désormais dans la constitution sénégalaise. Donc c'est devenu
sénégalaise.
Guinéenne, mais aussi au Sénégal. Macky Sall a fait de même récemment.
Non, mais moi je trouve que c'est très bien parce qu'il ne faut pas oublier que la Guinée est une jeune démocratie. Les premières élections libres datent seulement de 2010. Avant, c'était un régime militaire. L'héritage était très lourd. Donc, elle fait son apprentissage. Donc, c'est très bien qu'aujourd'hui, il y ait un climat apaisé entre pouvoir et opposition, qu'un statut de chef de l'opposition soit inscrit dans la Constitution. Donc, tout ça, ça sera à mettre au crédit d'Alpha Condé, premier président démocratiquement élu.
Voilà, c'est donc la fin de cette édition d'Afrique Presse. Merci Denise Epoté, Marie-Roger Biloa, de même qu'à vous Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles de l'émission. Cette édition d'Afrique Presse est disponible sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci bien sûr de votre fidélité à Afrique Presse.